Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous vous penchez aujourd'hui sur la vie de nos objets oubliés.
Mais oui, tapis au fond d'un tiroir ou retranchés dans un coin du grenier, ces objets parsèment nos existences tout en restant cachés, oubliés de nos usages quotidiens. Vêtements trop petits, jouets d'un enfant devenu grand, vieilles machines de sport que l'on se promet un jour d'utiliser. On pourrait faire sans fin l'inventaire à la Prévert de ces objets délaissés que nous entassons sans égard ou entreposons soigneusement en nous jurant qu'un jour, c'est sûr, ils nous resserviront. C'est ainsi près d'une centaine d'objets que chaque Français conserve sans jamais s'en servir. On ne parle pas ici du syndrome de Diogène qui pousse les souffrants à accumuler compulsivement des centaines d'objets formant des montagnes informes, associant sans discernement matière et saleté. Non, c'est une maladie bien plus douce qui atteint l'immense majorité des Français. Celle de conserver, de garder près de soi les reliques multiples d'une vie passée. Notre société de consommation compulsive a même créé un terme pour rendre compte de cette accumulation frénétique d'objets inutiles. On parle désormais de silogomanie.
Mais alors qu'est-ce qui nous pousse à conserver toutes ces choses que nous n'utilisons pas, Arjuna ?
Eh bien, selon la chercheuse Valérie Guillard, qui s'est spécialisée justement dans la seconde vie des déchets, les causes sont multiples. La chercheuse vient ainsi de mener une grande enquête afin de percer les causes d'un comportement a priori assez irrationnel. La première raison est bien souvent sentimentale. On range soigneusement des objets dans des petites boîtes, perdus dans de plus grosses boîtes, en se disant qu'on les utilisera avec plaisir quand le temps sera venu. Ce sont les traces d'une période heureuse, les fragments d'une mémoire trop souvent éparse. Ces objets qui n'ont plus d'usage pratique continuent d'opérer leur statut de doudou affectif même lorsqu'ils sont cachés. C'est le plaisir ponctuel du déménagement que de traverser ces bribes de souvenirs enchâssés dans un objet que l'on croyait perdu. Vient ensuite l'excuse d'un usage prochain, tous ces objets que l'on entasse en se disant qu'ils finiront bien par servir un jour. En réalité, l'enquête de Valérie Guillard nous révèle que rares sont les personnes interrogées qui déclarent effectivement conserver ces objets afin de les réutiliser. Mais les stocker reste une manière de s'assurer contre les vicissitudes du lendemain. La chercheuse explique ainsi que le risque de pénurie est resté gravé dans les mémoires. La nécessité de s'en prémunir s'est transmise d'une génération à l'autre. Une sorte d'impératif du « on ne sait jamais » qui se serait sédimenté dans notre conscience collective. Enfin, le fait de stocker est perçu comme une manière de ne pas gaspiller.
Alors que l'effet est tout à fait inverse.
Oui, car tous ces objets enfermés dans nos placards sont autant de ressources potentielles qui pourraient être utilisées par d'autres personnes si elles étaient valorisées, remises sur un circuit d'échange, de dons ou même d'achat. Comme le formule Valérie Guillard, des richesses considérables sont stockées dans des millions de mines domestiques, bien cachées à l'abri des regards. Chaque objet enfermé, accumulé dans une cave ou un placard, prive ainsi une autre personne de son usage et entraîne la production, l'emballage, la vente et l'accumulation d'un objet équivalent. Il est donc impératif de recréer ces liens informels de l'échange qui permettent de dépasser les logiques traditionnelles du marché.
Un certain nombre d'espaces ont ainsi vu le jour pour répondre à ce besoin.
Oui, exactement. On connaît bien sûr les lieux traditionnels de l'économie solidaire, Emmaüs et autres magasins de seconde main, qui sont cependant de plus en plus concurrencés par les plateformes de vente en ligne entre particuliers comme eBay ou Le Bon Coin. Enfin, avec l'émergence de l'économie du partage, un certain nombre d'applications numériques ont vu le jour, proposant de mettre en lien voisins et membres d'une communauté afin de connaître les besoins de ceux qui nous entourent. Ces applications proposent ainsi de louer ou de prêter pour quelques heures, quelques jours ou sur le long terme des objets du quotidien, perceuses, machines à coudre ou jeux de société. On passe ainsi de la propriété à l'usage, multipliant les vies des objets de notre quotidien. On retrouve d'ailleurs ces dimensions affectives dans des formes plus traditionnelles d'échange que sont par exemple les vides-greniers et qui sont une manière pour le chercheur Octave de Barry de mettre en scène le rituel de séparation avec ses objets familiers. C'est un échange symbolique et tacite qui nous aide à accepter le départ de ces objets contre l'assurance pour eux d'une nouvelle vie.
Merci beaucoup Arjuna Andrade.